Hélène et Isabelle sont avec moi. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Steve. Bonjour Isabelle.
On est en campagne électorale.
Ah oui?
Ben oui.
Fin de semaine, on a fait une grosse prise. La CAQ a réussi à amener Christian Dubé. En fait, c'est un des pas pires plans B que j'ai vu dans ma vie.
Hein? Je vous l'avais dit la semaine passée que ça pouvait être une opportunité pour la CAQ, ce départ-là, d'amener un gros canon.
Tu le sentais, Isabelle, ou tu avais des informations que tu ne voulais pas nous dévoiler?
Non, je ne suis pas si bien pluguée, mais j'avais ce petit souvenir de Geneviève Guilbeault dans la région de Québec l'an dernier, puis je me disais, ah, ils doivent avoir dans leur sac une candidature.
Là, lui vient de la caisse de dépôt et de placement, il était assez haut placé quand même. Là. On parle d'un gestionnaire de plus d'1 million $. Et il décide de faire le saut. Est-ce par opportunisme? Comment vous voyez ça, vous autres?
Moi, je trouve ça très drôle quand on se dit qu'une personne va quitter un emploi à 1 million pour s'en aller avec un... S'il est député, c'est à peu près 90 000. Pour moi, c'est pas de l'opportunisme.
Ben, il va être ministre à 150, ouais, mais ben, il y a un méchant écart.
C'est sûrement
c'est
pas
une question d'argent. Entre 90 000 puis 150 000.
Moi, je vois pas du tout d'opportunisme. Là. Au contraire, je vois le goût de servir la communauté. La raison pour laquelle je dis ça, c'est vrai qu'il est parti peu de temps après avoir été élu, là, Christian Dubé, pour justement aller rejoindre la Caisse de dépôt. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà, il avait mentionné qu'il voyait des choses absolument épouvantables au niveau de la rigueur puis de la gestion de l'appareil public. Et il voulait apporter des changements, mais bien sûr, à ce moment-là, il était backbencher. Fait que sa possibilité de le faire était très minime, nonobstant le fait que lorsqu'il en parlait, tout le monde l'écoutait, puis tout le monde disait « Ben oui, effectivement, il y a des zones d'ombre là, qui méritent d'être changées. » Il a décidé de quitter, mais moi, j'ai l'impression qu'il revient, puis il se dit « Je vais prendre tous les moyens possibles, puis j'espère que la CAQ va rentrer pour qu'on puisse faire le ménage là-dedans une fois pour toutes. »
C'est là quand même on est obligé de parler d'une certaine forme d'opportunisme.
Non, c'est...
Si la CAQ est troisième des sondages, il ne se présente pas dans la prairie. Là.
Moi, là, c'est tout à fait vrai. C'est une excellente candidature du point de vue de la CAQ de ramener un homme de cette expérience-là. C'est une excellente opportunité, on va dire une opportunité, de servir pour
ça.
Christian Dubé, qui a ce désir de servir. T'sais, il est passé de parlementaire, où il est un parlementaire respecté de tous les partis par ailleurs, qui renforce le fait que c'est une bonne candidature, à la Caisse de dépôt et placement. Tu sais, il n'est pas allé dans une compagnie privée ou défendre des intérêts. Il est quand même allé s'occuper... rien dire ici. S'occuper du bas de laine des Québécois à la Caisse de dépôt, là, donc dans une institution qui a fait grandir le Québec comme aucune autre. Donc, c'est quand même exceptionnel de sa part. Il revient, mais c'est sûr que d'un point de vue de l'analyse politique, il va devoir finir sa campagne puis faire son porte-à-porte avec une coupe de cailloux dans ses souliers. Celui d'être parti quelques mois après l'élection de 2014, après avoir été réélu député, c'en est un important. Il y a aussi la position du REM, la question des trains qui ne seront pas construits au Québec, qui est une décision de la caisse que la CAQ a dénoncée.
On va faire ça en Inde.
Après ça, voilà, exactement. Après ça, la question de la cimenterie mécaniste, qui est un projet que la CAQ a aussi dénoncé, qui est un projet dans lequel la caisse a beaucoup investi. Donc là, il va falloir qu'ils répondent de ces questions-là. Puis je pense qu'on peut compter sur les journalistes puis aussi sur les autres partis pour essayer de trouver d'autres contradictions. Puis
ce ne sont pas des imposteurs, mais ça rappelle Youri Chassin avec sa gestion de l'offre. Puis là, tu dis, OK, il faut défendre la gestion de l'offre. Lui, il est contre complètement.
Puis ça démontre aussi que le fait d'être premier dans les sondages, tu sais, la semaine que François Legault a eue la semaine dernière, elle a été quand même difficile à certains égards. La question d'Éric Kerr, le départ de M. Le Bouillonnec, ça n'a pas été une semaine facile. Il est le premier. Tout le monde fait flèche de tout bois lui.
J'ai hâte de voir les derniers sondages, par exemple, voir qu'est-ce que ça a donné, justement.
Mais là, ce matin, on se rend compte que l'écart se resserre. Entre la CAQ et les libéraux. Mais il y a aussi le fait qu'il va falloir, parce qu'il attire beaucoup de gens, beaucoup de candidatures de grande valeur, il y a le 1er octobre, tout le monde a les yeux tournés vers le 1er octobre, mais le 2 octobre, quand il va devoir concilier toutes ces positions-là, toutes ces différences de positions, quand il va devoir composer un conseil des ministres, avec une équipe composée d'autant de gens de grande valeur, mais aussi avec des grandes aspirations.
Comment gérer un conseil des ministres qui ne sera plus un conseil des ministres de médecins, mais bien d'économistes?
D'économistes, entre autres. Mais c'est drôle, Isabelle, quand tu parles de ça, parce que ça fait longtemps qu'on dit, mon Dieu, que c'est difficile d'attirer des gens de qualité en politique. C'est vrai que si la CAQ est élue, François Legault va avoir un gros défi. Mais encore une fois, c'est vrai aussi qu'il a réussi d'attirer dans son parti des gens de très, très grande qualité. Puis il va falloir justement, il y a des égos qui vont devoir être mis de côté. Il va falloir tenir compte des régions. Il va falloir tenir compte de cette équité homme-femme que M. Legault veut mettre de l'avant dans le Conseil des ministres.
Hélène, tu as déjà été candidate à la mairie de Sherbrooke. Évidemment, tu es peut-être plus enclin à dire oui à ma question, mais laisseriez-vous un salaire d'un million de dollars pour le service public comme poste de ministre?
Moi, j'ai laissé ma job pour me présenter en politique, puis finalement, je me suis retrouvé avec rien par la suite. Là, c'est la raison pour laquelle tu vas faire de la politique, ça n'a rien à voir, en tout cas, pour moi, puis pour la grande majorité des gens, avec l'argent. Là.
Mais pour le commun des mortels qui nous écoutent dans son auto ce matin, là, si vous parlez honnêtement, tu ne laisses pas ta job d'un million pour un poste de ministre.
Ben, c'est parce que ça dépend ce que tu veux faire, puis c'est quoi ton but?
Il y a peut-être poste de ministre qui n'est quand même pas élu.
En réalité, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas juste l'argent qui compte, et surtout pas pour un gars comme lui qui, manifestement, sa fortune est faite.
On n'a plus besoin.
Écoute, on en a toujours besoin, mais lui, moins que les autres. Et il y a un but. Ce gars-là, il y a une mission. Puis, tu sais, les gens, ils vont en politique pourquoi? Pour il y en a plusieurs que c'est pour le pouvoir, pour devenir quelqu'un. Puis la grande majorité, je le crois sincèrement, c'est pour servir le public.
Oui, oui, puis pour initier des changements. Probablement que, tu sais, le temps qui a passé à l'Assemblée nationale, même si ça a été assez court, il a probablement permis d'avoir une vision, puis il a envie de
d'aller jusqu'au bout.
De la mettre de l'avant.
Isabelle, on a senti ton esquive. Tu y vas pour laisser un salaire d'un million pour être ministre?
Ah, moi, je pense que c'est chaque situation est particulière. Si j'avais l'opportunité de mettre en œuvre, d'avoir une vision claire dans un ministère, puis d'avoir l'opportunité de la mettre en œuvre, probablement.
Oui.
Probablement.
Merci d'avoir été là, mesdames. On se retrouve demain.
Merci. À demain.